Audible Studio présente Les Aventuriers de la Mer. Tome 4 Brumes et Tempêtes de Robin Hobb. Traduit de l'anglais par Véronique David Marisco. Lu par Vincent Deboire. Printemps. Prologue. Réminiscence d'elle. Au-dessous des serpents. Des bancs d'algues ondulaient doucement avec la renverse de la marée. L'eau était tiède, aussi tiède que dans le sud avant qu'il n'ait émigré. Bien que Malkin eût déclaré qu'il ne suivrait plus la pourvoyeuse argentée, il sentait flotter dans l'eau salée son odeur affolante. Elle n'était pas très loin. Ils étaient toujours dans son sillage mais gardaient leur distance. Shriver songea à rappeler à Malkin ses propres paroles, puis renonça. Elle regarda leur chef d'un œil inquiet. Les blessures qu'il avait reçues durant sa brève lutte avec le serpent blanc se refermaient lentement. Les plaies profondes brisaient le dessin de ses écailles. Le long de son corps, les ocelles dorées qui le désignaient comme leur prophète étaient ternes, éteints. Shriver, elle aussi, se sentait terne et éteinte. Ils avaient parcouru un long chemin à la recherche de celle qui se souvient. Malkin avait montré une telle assurance au début de leur voyage. À présent, il semblait aussi désorienté que ses compagnons. Du grand nœud des serpents de mer qui avaient commencé la migration, il ne restait plus que trois. Les autres avaient perdu foi en leur quête et abandonné Malkin. Lors de leur dernier passage, ils suivaient un grand pourvoyeur noir en se nourrissant, oublieux et insouciants, de la chair inerte qu'il leur distribuait. Depuis, beaucoup de marées s'étaient succédées. « Parfois, avoua Malkin à voix basse tandis qu'il se reposait, je n'arrive plus à me situer dans le temps. Il me semble que nous sommes déjà passés par là, que nous avons déjà accompli ces actes, peut-être même avons-nous déjà échangé ces paroles. » Parfois, je suis fermement convaincu qu'aujourd'hui n'est qu'un souvenir ou un rêve. Je crois alors que nous n'avons pas besoin d'agir, car ce qu'il nous est arrivé nous adviendra de nouveau. Il se peut même que ce soit déjà advenu. Sa voix manquait de force et de conviction. Elle vint se placer contre lui. Ils ondulaient doucement, portés par le courant, en battant des nageoires juste ce qu'il fallait pour maintenir leur position. Sous eux, Cessurea secoua sa crinière en libérant une légère bouffée de toxines pour les prévenir.
« Regardez, de la nourriture »
claironna-t-il. Comme un don du ciel, argenté, miroitant, le banc de poissons glissait vers eux, suivi de près par un autre nœud de serpent qui se repaissait des lisières. Trois rouges, un vert et deux bleus. Les prédateurs n'étaient pas nombreux, mais ils paraissaient vifs et en pleine santé. Leur peau luisante, leur corps charnu contrastaient notablement avec les écailles visqueuses et les flancs creux du nœud de Malkin.
« Venez !»
leur ordonna-t-il, et il les mena vers les autres pour partager leur festin. Shriver émit un petit bruit de soulagement. Au moins aurait-il le ventre plein. Peut-être les autres se joindraient-ils au nœud de Malkin quand ils comprendraient qu'il était un prophète. Leur proie était un banc compact de poissons aux reflets d'argent, d'aspect trompeur. Ils se déplaçaient comme s'ils ne faisaient qu'un. Pourtant, ils pouvaient se diviser pour se couler autour d'un lourd prédateur malhabile. Les serpents de Malkin n'étaient pas de lourds prédateurs malhabiles. Tous trois ondoyaient avec grâce à la suite des poissons. L'autre nœud trompetait, menaçant, mais Shriver n'avait pas conscience du danger. En fouettant de la queue, elle s'enfonça dans le banc, mâchoire béante, et happa trois poissons à la fois. Elle distendit sa gorge pour les avaler. Deux serpents écarlates se détournèrent brusquement pour attaquer Malkin en le martelant de leurs groins, comme s'il était un requin ou un de leurs ennemis communs. Le bleu suivit Shriver, gueule ouverte. Elle l'évita en se levant vivement, puis changea de direction et fila comme une flèche. Elle aperçut l'autre serpent rouge qui tentait de s'enrouler autour de Cesurea et qui, crinière déployée, projetait du poison en proférant injures et menaces. Ces malédictions désordonnées n'avaient aucun sens, elles n'étaient que furie. Shriver prit la fuite, en poussant des cris aigus de peur et de désarroi. Molkin ne la suivit pas. D'une secousse de sa grande crinière, il lâcha un nuage de toxines qui paralysa presque les serpents rouges. Ils battirent en retraite, gueules béantes et ouïes gonflées pour tenter de refouler le poison.
« Qu'est-ce qui vous prend ?»
demanda Molkin au nœud inconnu. Il se tordit en spirale en déployant sa crinière de façon menaçante. Ses ocelles se mirent à luire faiblement.
« Pourquoi nous attaquez-vous comme des bêtes sauvages qui se battent pour manger ? Ce ne sont pas les manières d'agir de notre espèce.
Le poisson, même rare, appartient à celui qui l'attrape, non à celui qui l'a vu le premier. Avez-vous oublié qui vous êtes, ce que vous êtes ? Êtes-vous complètement décérébré ?»
Le nœud resta un moment en suspens, battant légèrement de la queue. Le banc de poisson s'éloigna, abandonné. Puis, comme si le bon sens même des paroles de Molkin les avait exaspérés, ils passèrent à l'attaque. Les six serpents convergèrent vers lui, gueules grandes ouvertes pour montrer leurs dents, crinières hérissées projetant des flots de toxines, fouettant de la queue. Horrifié, Shriver les vit qui l'enveloppaient et l'entraînaient dans la vase.
« Au secours !» trompeta Cesurea. « Ils vont l'étouffer !»
Le cri dissipa la paralysie de Shriver. Côte à côte, ils piquèrent droit vers le fond pour attaquer à coups de tête et de queue le nœud qui retenait Molkin captif, qui s'acharnait sur lui à pleines dents comme sur une proie. Il se débattait, et son sang se mêlait aux toxines dans un nuage suffocant. Ses ocelles luisaient faiblement à travers les ténèbres croissantes. Devant la brutalité insensée de l'attaque, Shriver hurlait d'horreur tout en lacérant les serpents à belles dents, tandis que Cesurea plus grand les cinglait de sa queue. Au moment propice, il enroula ses anneaux autour du corps déchiré de Molkin et l'arracha au nœud enragé. Il s'enfuit en emportant son chef, suivi de Shriver, trop contente d'abandonner le combat. Les autres ne les pourchassèrent pas. Possédé d'une violence frénétique et venimeuse, ils se retournèrent les uns contre les autres, se provoquèrent en rugissant des insultes. Ils s'entre-déchiraient en proférant des cris inintelligibles. Shriver ne regarda pas en arrière. Un peu plus tard, elle oignait de son propre mucus cicatrisant la chair meurtrie de Molkin.
« Ils ont oublié, » déclara-t-il. « Ils ont complètement oublié qui ils sont. Il y a trop longtemps, Shriver. Ils ont perdu jusqu'à la moindre bribe de souvenir. Ils sont sans but. »
Il grimaça quand elle rabattit un lambeau de peau qu'elle recolla avec une couche de mucus.
« Ils sont ce que nous allons devenir. »
« Silence !» lui dit-elle doucement. « Silence, repose-toi. »
Elle lova étroitement son long corps contre lui, ancra sa queue sur un rocher pour résister au courant. Mêlé à eux, Cesurea dormait déjà. Ou était-il seulement silencieux et impassible, en proie au même découragement qui rongeait sa compagne ?
Ah, pourvu que non.
Il restait à Shriver à peine assez de force pour raffermir sa détermination. Cesurea ne devrait compter que sur lui-même. Elle s'inquiétait surtout pour Molkin. Leur rencontre avec la pourvoyeuse argentée l'avait changé. Les autres de son espèce qui hantaient le manque et le plein leur fournissaient simplement et commodément de la nourriture. La pourvoyeuse argentée était différente. Son odeur avait éveillé en chacun d'eux des souvenirs. Il l'avait poursuivie, persuadée qu'elle devait les mener à celle qui se souvient. Mais elle n'était même pas de leur race. Plein d'espoir, il l'avait appelée, mais elle n'avait pas répondu. Elle avait donné à manger au serpent blanc qui mendiait. Molkin s'était détourné d'elle en déclarant qu'elle ne pouvait pas être celle qui se souvient et qu'ils allaient cesser de la suivre. Pourtant,
Depuis lors, son odeur avait persisté. Elle avait beau être hors de vue. Shriver savait qu'elle était dans les parages. Malkin continuait à la suivre et eux continuaient à suivre Malkin. Il émit un grognement sourd et changea de position.
« Je crains que ce soit notre dernier voyage avant que nous ne devenions des bêtes sauvages. »«
Que veux-tu dire ?» demanda abruptement Cesurea. Il se tordit péniblement pour les regarder tous les deux dans les yeux. Il souffrait de nombreuses blessures lui aussi, mais sans gravité. La plus sérieuse était une profonde entaille à côté d'une de ses glandes à venin, juste derrière l'articulation de la mâchoire. Si la glande avait été atteinte, il serait mort empoisonné par ses propres toxines. Le nœud avait conservé son intégrité, mais c'était pur hasard.
« Fouille dans tes souvenirs !» ordonna Malkin d'une voix caverneuse. « Remonte non seulement dans les marées et dans les jours, mais aussi dans les saisons et les années. Retourne des lustres, des décennies en arrière. » Nous sommes déjà venus ici, Cesurea. Tous les nœuds ont émigré vers ces eaux-là, non pas une, mais maintes fois. Ils grouillaient. Nous sommes venus chercher ceux qui se souviennent, les rares investis de la mémoire de notre race. La promesse était formelle. Nous devions nous rassembler. Notre histoire nous serait rendue et nous serions conduits en lieu sûr pour accomplir notre transformation. Là, nous renaîtrions. Cependant, nous avons été déçus. À chaque fois, nous nous sommes rassemblés en foule, nous avons attendu. À chaque fois, nous avons fini par perdre espoir, par oublier notre but et par regagner nos eaux chaudes du sud. À chaque fois, ceux d'entre nous qui conservent une poignée de souvenirs ont dit « Peut-être nous sommes-nous trompés. Peut-être n'était-ce pas l'heure, la saison ni l'année de la Renaissance ? Mais nous ne nous étions pas trompés. Ceux qui devaient nous accueillir nous ont fait défaut. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus alors. Ils ne viendront peut-être pas non plus cette fois-ci. »
Malkin retomba dans le silence. Shriver le retenait toujours contre le courant. L'effort était éprouvant. Même sans courant, il n'aurait pu se reposer tranquillement. Pas de vase apaisante ici où se vautrer, rien que de rêches salicornes, des pierres écroulées et des quartiers de roches. Il fallait trouver un autre endroit. Pourtant, tant que Malkin n'était pas guéri, elle ne voulait pas voyager. Du reste, où irait-il ? Ils avaient remonté et descendu ce courant imprégné de sels inconnus. Elle avait cessé de croire que Malkin savait où il les menait. Laissée à elle-même, où irait-elle ? La question pesa trop lourd soudain dans son esprit. Elle ne voulait pas penser. Elle dépura le cristallin de ses yeux et baissa la tête pour examiner leurs corps enchevêtrés. L'écarlate de ses écailles brillait d'un vif éclat, mais peut-être n'était-ce que par contraste avec la peau terne de Malkin. Ses ocelles couleur d'or s'étaient rembrunies, gâtées par les plaies qui suppuraient. Il avait besoin de se nourrir, de grandir puis de muer. Il se sentirait mieux alors. Ils se sentiraient tous mieux. Elle se risqua à exprimer tout haut sa pensée.
« Nous avons besoin de manger. Nous avons faim et nous nous affaiblissons. Mes glandes de toxines sont presque vides. Peut-être devrions-nous nous diriger vers le sud, où la nourriture est abondante et l'eau chaude ?»
Malkin se tortilla pour la regarder. Ses grands yeux cuivrés exprimaient l'inquiétude.
« Tu uses tes forces pour moi, Shriver !»
dit-il sur un ton de reproche. Elle sentit combien il lui en coûta de secouer et redresser sa crinière. Une seconde secousse diffusa un léger brouillard de toxines qui la brûla et la rappela à la conscience. Cesurea se pencha et s'enroula autour d'eux en gonflant ses ouïes pour absorber les toxines de Malkin.
« Tout ira bien, »
dit Sessuréa pour réconforter leur compagne. Tu es épuisé simplement et affamé, comme nous tous.
Épuisé à mourir, confirma Molkin d'une voix lasse, et affamé presque jusqu'à l'hébétude. Les exigences du corps annihilent les fonctions du cerveau. Mais écoutez-moi tous les deux. Écoutez, gravez mes paroles dans votre esprit et tenez-vous-y. Si tout leur reste est oublié, conservez-les précieusement. Nous ne pouvons retourner dans le sud si nous quittons ces eaux sans sera fini de nous. Tant que nous pouvons penser, nous devons demeurer ici et chercher celle qui se souvient. Je le sens dans mes entrailles. Si nous ne sommes pas transformés cette fois-ci, nous ne le serons jamais. Nous périrons. Notre race entière restera à jamais ignorée du ciel, de la terre et de la mer. Il prononça avec lenteur ces étranges paroles, et l'espace d'un instant, Shriver faillit se souvenir de leur signification. Le manque et le plein, mais aussi la terre, le ciel et la mer, les trois parties de leur royaume, jadis les trois sphères de quelque chose. Molkin secoua de nouveau sa crinière. Cette fois, Shriver et Sessuréa ouvrirent toutes grandes leurs ouïes à ces toxines et gravèrent en eux-mêmes ces souvenirs en lettres de feu. Shriver baissa les yeux sur les blocs de pierre taillés qui jonchaient le fond de la mer, sur les couches de bernacle et de salicorne qui s'étaient accrochées à l'arche du conquérant en un rideau opaque. La pierre noire, veinée d'argent, n'apparaissait que par endroits, en taches clairsemées. La terre l'avait fait s'écrouler et la mer l'avait engloutie. Jadis, dans une autre vie, Shriver s'était posé sur cette arche en battant de ses gigantesques ailes qu'elle avait repliées sur ses épaules. Elle avait claironné sa joie à son compagnon dans la pluie fraîche du matin, et un dragon d'un bleu étincelant lui avait répondu en trompettant. Jadis, la race des anciens avait salué son arrivée avec des pluies de fleurs, avec des cris de bienvenue. Jadis, dans cette cité, sous un ciel bleu éclatant. Le souvenir s'effaça. Il était incompréhensible. Les images se dissipèrent comme des rêves au réveil.
« Soyez forts !» les exhortait Molkin. « Si notre destin n'est pas de survivre, au moins luttons jusqu'au bout. Si nous devons nous éteindre, que notre disparition soit due à la fatalité et non à notre manque de courage. Au nom de notre race, demeurons fidèles à ce que nous fûmes. »
Sa collerette se déploya, pleine et venimeuse, autour de son poitrail.
Il était de nouveau le chef visionnaire qui avait emporté la foi de Shriver il y avait si longtemps. Jusqu'au tréfonds, son cœur se dilata d'amour pour lui.
Le monde s'obscurcit et elle leva les yeux vers une grande ombre qui s'étendait majestueusement sur leur tête.
« Non, Molkin !» trompeta-t-elle doucement. « Nous ne sommes pas destinés à mourir ni à oublier. Regarde !»
Un sombre pourvoyeur glissait nonchalamment au-dessus d'eux. En passant, il leur rabattait de la nourriture. La chair sombrait lentement en oscillant dans le courant. C'étaient des deux jambes morts, l'un portait encore une chaîne. Il n'y aurait pas à se battre pour cette viande, il n'était que de l'accepter.
« Viens !»
dit-elle d'un ton pressant à Molkin, tandis que Sessuréa se déroulait et se dirigeait avidement vers la viande. En entraînant doucement son compagnon, elle remonta pour recevoir le don du généreux pourvoyeur.